L'Assemblée de la province Sud, c'était ce matin. À l'ordre du jour, le nouveau plan provincial de prévention de la délinquance 2025-2028, mais aussi la nouvelle stratégie en matière de logements sociaux. Le gouvernement et les partenaires sociaux annoncent une allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi. Ce dispositif prend la forme d'une indemnité horaire. Il est institué du 1er juillet 2025 et s'étend jusqu'au 31 décembre de cette année. L'Union européenne peut apporter un soutien financier à la Nouvelle-Calédonie. Nous en avons parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Clap de fin pour l'exercice militaire conjoint franco-japonais Brunet-Takamori 2025. Il s'agissait de la troisième édition, un exercice conduit par le RIMAP NC. Après une année d'absence, c'est le grand retour du carnaval de Nouméa ce samedi soir. Plus de 700 carnavaliers défileront le long de la baie de Sainte-Marie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les élus de la province Sud étaient réunis en séance publique ce matin et Jean-François Baudin, les élus ont commencé par examiner le nouveau plan provincial de prévention de la délinquance 2025-2028.
Un plan qui compte 30 mesures qui visent notamment à endiguer la délinquance juvénile, à lutter contre les violences intrafamiliales et à prévenir les addictions à l'alcool et au cannabis. Parmi les dispositifs, on retiendra la création de séjours en milieu isolé pour prévenir la récidive chez les jeunes condamnés à des travaux d'intérêt général ou encore l'ouverture d'un centre administratif d'accueil des mineurs en errance en 2026. La province a également relevé l'âge légal d'achat d'alcool. Il faudra désormais avoir 21 ans et non plus 18. La consommation sera en outre interdite dans l'espace public. Il est aussi question de renforcer la présence des forces de sécurité et renforcer la vidéosurveillance, notamment l'installation de caméras de lecture de plaques d'immatriculation. Dans ce plan, il est également prévu la création de Sud Sécurité, destinée à sécuriser les habitations en finançant 20 à 30% des équipements comme des portes blindées, des volets, des serrures multipoints, des grilles, des alarmes ou des caméras, dans la limite de 800 000 francs. Une enveloppe de 500 millions de francs y est consacrée pour une entrée en vigueur début janvier. Sonia Baquet, c'est la présidente de l'Assemblée de la province Sud.
La seule compétence de la province, c'est la prévention de la délinquance. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions. Donc il y a un certain nombre de propositions sur l'alcool, sur l'errance des mineurs, où on a du mal à avoir une responsabilisation des parents sur les addictions. On fait aussi beaucoup de choses pour essayer de faire que les jeunes se dirigent plutôt vers des associations sportives, culturelles, etc. Mais il y a aussi des actions très concrètes parce que les cambriolages ont explosé, les atteintes aux biens ont augmenté de plus de 30%, ça veut dire en gros les cambriolages. Tout le monde est touché, tous les quartiers de Nouméa, du Grand Nouméa et même de Brousse. Et donc il y a un dispositif très concret, Sud Sécurité, qui va permettre aux Calédoniens de bénéficier jusqu'à 30% de leur investissement en matière de sécurité pour leur habitation.
Toujours concernant la lutte contre la délinquance, Nina Julier, élue de Génération NC, a demandé à ce que soient revus les découpages des zones police et gendarmerie. En raison de l'urbanisation dans le Grand Nouméa, elle estime que Dumbéa et le Mont d'Or devraient être en zone police. Sonia Baquès a donc demandé une réunion avec l'État qui en a la compétence. Le texte a été adopté. Calédonie Ensemble a voté contre. Le groupe FLNK Sud et l'Éveil Océanien se sont abstenus. L'ordre du jour de cette séance a ensuite appelé le vote sur la nouvelle stratégie en matière de logements sociaux de la province Sud. Une demande de la SIC soutenue par l'AFD, nous a dit Sonia Baquès.
Là, on a vraiment une philosophie pour accompagner l'évolution nécessaire du logement social. Ce qui s'est passé pendant les émeutes nous a alerté sur une situation qu'on connaissait déjà. On a besoin, d'une part, d'arrêter la construction de logements sociaux. On a trop de logements vacants aujourd'hui, donc on ne peut pas continuer à construire. Et d'autre part, on a besoin de dédensifier un certain nombre de logements sociaux où, finalement, on a vu qu'on avait cette densité importante de logements sociaux avait sans doute contribué à la dégradation du climat social et donc aux émeutes de mai dernier. Donc ce plan, il a vocation à, de manière très concrète, d'une part à arrêter la construction de nouveaux logements, mais d'autre part à améliorer les conditions actuelles du logement social et à finalement faire évoluer un certain nombre de logements sociaux vers plus de responsabilités de la part des locataires.
Et la province souhaite aussi résorber les squats. Les deux tiers seront démantelés dans les 5 prochaines années. Le reste à l'horizon de 10 ans. La province prévoit de reloger les foyers éligibles.
La situation des squats est très compliquée. Je crois qu'on a tous l'envie et on ressent tous le besoin de supprimer, à la fois parce que c'est des conditions indignes pour les gens qui y vivent et ensuite parce que ce sont des foyers de violence, d'insécurité. Mais c'est très compliqué d'enlever les squats parce qu'en fait, seul le propriétaire du terrain peut initier les opérations, donc ça demande que le propriétaire soit moteur. Et ensuite, on a des conditions qui nous sont fixées par l'État pour désquatter qui sont extrêmement difficiles, puisqu'il faut replacer tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité en fait, de retrouver un logement, parce que tout simplement, les revenus ne le permettent pas. Il faut avoir un projet à faire sur le terrain qui est squatté. Donc les conditions sont compliquées, mais on a dans ce plan validé un programme sur 10 ans pour que petit à petit, on réduise les squats.
Et cette séance publique de l'Assemblée de la province Sud s'est déroulée dans l'hémicycle du Congrès en raison des travaux en cours dans l'hôtel de province Baie de la Moselle.
Nous reviendrons sur les décisions adoptées lors de cette Assemblée de la province Sud demain dans le magazine Transparence. C'est Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, qui sera l'invitée d'Elisabeth Noir. Elle sera aussi interrogée sur la situation politique nationale, sur la nomination à Matignon de Sébastien Lecornu et sur les conséquences que cette situation nationale peut avoir sur la Nouvelle-Calédonie et sur la mise en œuvre de Bougival. Sonia Baquès, invitée de Transparence. C'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Le gouvernement communique sur l'allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi. Elle fait partie d'un accord cadre défini par les partenaires sociaux et le gouvernement sous l'égide de Christopher Gigès, Jean-François Baudin.
Cette allocation exceptionnelle et temporaire de maintien dans l'emploi permet aux entreprises confrontées à des difficultés persistantes depuis les émeutes de bénéficier d'un soutien financier temporaire. Il doit permettre de réduire le risque de licenciement massif ou de cessation d'activité. Il a débuté le 1er juillet 2025 et court jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement rappelle que les entreprises éligibles sont celles qui ont bénéficié d'un dispositif de chômage partiel entre le 1er et le 30 juin 2025, entre le 1er mai et le 30 juin 2025, et qui justifie d'une réduction ou d'une suspension temporaire d'activité imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, mais aussi à des intempéries exceptionnelles, un sinistre, une restructuration ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel qui ont affecté le chiffre d'affaires, la trésorerie ou qui a créé une augmentation des créances. Toutes les informations sur ce dispositif ainsi que les critères d'éligibilité sont expliqués sur le site de la DTE, la Direction du Travail et de l'Emploi.
Économie toujours, la Calédonie peut bénéficier des aides européennes. Une délégation calédonienne s'est rendue en fin de semaine dernière à Fidji, où elle a participé à un forum entre l'Union européenne et les pays et territoires du Pacifique. Emmenée par Christopher Gigès et Samuel Népéoun, elle rassemblait des acteurs du public et du privé. Et c'était le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Cela a d'abord permis de mieux comprendre les actions menées par l'Union européenne dans le Pacifique, a expliqué Luc Sorlin du cluster maritime.
C'était l'occasion de voir comment ils sont organisés, quels sont leurs objectifs et puis surtout quels sont effectivement les financements qu'ils peuvent nous apporter.
Est-ce que ça vous a ouvert des pistes? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites en rentrant, il va falloir peut-être qu'on axe sur tel ou tel dossier en priorité parce qu'on sait que ça intéresse l'Union européenne et qu'il y aura des financements derrière?
Tout à fait, en fait, puisqu'au cours de ce forum a été annoncé comme une enveloppe de 36 millions d'euros pour l'autonomie alimentaire des PTOM du Pacifique de l'Europe, alors dont on fait partie évidemment la Calédonie, mais Wallis-Futuna et la Polynésie
française.
Dans le Pacifique, c'est Cocorico, c'est nous. Cette fameuse enveloppe qui a été annoncée, donc là c'est du concret, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des projets dans l'autosuffisance alimentaire, ils vont pouvoir s'exprimer. Et nous, dans le maritime, ça concerne nos éleveurs de crevettes, l'aquaculture en général, les pêcheurs, et puis peut-être, pourquoi pas, pour ceux qui ont des idées, développer d'autres filières, parce que c'est un peu la porte ouverte à l'innovation aussi.
L'Europe soutient financièrement des projets dans le Pacifique dans le cadre de sa stratégie Global Gateway qui concerne le numérique, l'énergie, les transports ou encore l'économie bleue. Il faut donc que les projets calédoniens, pour qu'ils soient retenus, correspondent aux critères mis en place par l'Union européenne. Cécile Chamboredon du cluster NCTI.
Les programmes européens sont accessibles, mais ils sont quand même très fléchés. Donc, enjeu de l'adaptation au changement climatique, qui sont un des critères, que ce soit pour des emprunts ou que ce soit pour des prêts, que ce soit pour le développement de projets, c'est une phase d'éligibilité conséquente. Donc, c'est toutes ces cases qu'il faut cocher pour être éligible. La délégation, c'était un ensemble de parties prenantes et de toute façon, répondre à des projets européens, c'est se mettre autour de la table à plusieurs et construire une crédibilité du projet. Ça, c'est ce que les entreprises calédoniennes doivent apprendre à faire. Donc, c'est encore un long chemin devant nous, ça c'est évident.
C'est donc un travail précis et concerté que doivent mener les entreprises calédoniennes pour pouvoir bénéficier des financements de l'Union européenne. Mais c'est une opportunité de développement, voire de diversification de l'économie, a souligné Candice Levé de Team France Export.
Les crises successives ont chamboulé l'ordre établi et les entreprises se sont rendues compte que la dépendance à un seul marché était très dangereuse. L'export n'était pas dans l'ADN des entreprises calédoniennes. Encore une fois, il y en avait un certain nombre qui exportaient. Et donc, cette crise voilà, a vraiment permis de montrer aux entreprises qu'il faut aller voir à l'extérieur et on sent vraiment qu'elles ont ce besoin. Nous, la Team France Export, avec NCTI, on est donc là pour accompagner les entreprises dans ce projet de diversification.
Des extraits des jeudis de l'économie qui sont à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.ince.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS sont satisfaits de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre pour succéder à François Bayrou. Ils ne sont que 3% à ne pas être satisfaits. Et voici notre question du jour. Selon vous, Sébastien Lecornu va-t-il réussir à former un gouvernement qui échappera à la censure? Si vous pensez qu'il va réussir, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 17h56, première pause dans ce journal avant de voir en détail cet exercice militaire franco-japonais nommé Brunet Takamori. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Léana Colombo.
L'exercice militaire franco-japonais Brunet Takamori 2025 est désormais terminé. Il s'agissait du troisième exercice de ce type, un exercice 2025 conduit par le RIMAPENSE et qui s'est achevé ce matin dans le sud du Mont d'Or. Reportage de Lionel Sabot.
Cet exercice a pris la forme d'une manœuvre bilatérale menée par les forces armées en Nouvelle-Calédonie et la force terrestre d'autodéfense japonaise. 120 militaires japonais appartenant à l'armée du Nord-Est, à l'état-major de la 9e division et au 21e régiment d'infanterie ont conduit aux côtés de 280 militaires du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie une série de manœuvres. Des manœuvres qui ont été en quelque sorte résumées ce matin lors d'une présentation dynamique sur la plage de Saint-Tropez au Mont d'Or. Le lieutenant-colonel Antoine est le chef du bureau opération et instruction du RIMAPENSE.
L'objectif était de sécuriser la plage, une plage qui a servi de point d'évacuation à la fois pour des forces françaises et japonaises. Le but, c'est d'être au plus proche de la réalité pour pouvoir ensuite être ensemble sur des zones de conflit. La barrière de la langue, elle est forcément présente, mais il faut la surpasser. C'était bien l'objectif de la première semaine d'entraînement avec les forces japonaises. Mmh. On a travaillé ensemble pour pouvoir dépasser cette barrière. La deuxième semaine, c'était vraiment un travail de coordination et de partage de l'information. Nous avons les trois armées qui ont œuvré sur cet exercice, à la fois l'armée de terre qui était vraiment leader sur cet exercice, et ensuite appuyée par des forces de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale.
Utilisation de drones, gestion et évacuation d'un blessé par hélicoptère, évacuation des troupes d'infanterie via la mer, les composantes terre, air et mer ont eu un rôle à jouer durant toute la durée de cet exercice Brunet Takamori 2025. Un engagement des forces salué par le général Yasunori Matsunaga, le commandant de la 9e division de la force terrestre d'autodéfense japonaise. Pour la première fois, il s'agissait d'un exercice interarmé. Et cet exercice est un grand succès, une vraie réussite. Pour nous, l'un des points importants est la collaboration qui se met en place entre les commandements de nos deux forces armées, notamment dans le contexte géopolitique actuel. Cet exercice nous a également permis d'apprendre beaucoup auprès des FONC, notamment dans le domaine des évacuations de blessés ou dans l'utilisation de drones sur le théâtre d'opération. C'est la deuxième fois que cet exercice se déroulait en Nouvelle-Calédonie. Un exercice important dans un contexte géopolitique en perpétuelle évolution, notamment dans la zone pacifique. Écoutez le général de brigade Gabriel Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Ce genre d'exercice est assez fondamental aujourd'hui. On fait face à des compétiteurs qui se durcissent. Nous sommes dans un environnement qui se durcit. Et donc aujourd'hui, ce genre d'exercice permet de montrer notre intérêt mutuel à nous entraîner ensemble. Nous avons une vision stratégique partagée avec le Japon. Nous avons des intérêts communs dans le Pacifique. Et donc d'avoir ce partenariat opérationnel, très tactique, vous l'avez vu ce matin lors des démonstrations, est essentiel pour améliorer notre interopérabilité tactique tout d'abord, notre interopérabilité aussi opérative, puisque rien que l'acheminement de moyens et de personnel comme ça à travers le Pacifique est assez essentiel. C'est un moyen aussi d'entraîner nos centres d'opération, puisqu'ils étaient conjoints ce matin, et ça permet de travailler avec une armée partenaire. Et enfin, ça permet d'envoyer un signalement stratégique à nos alliés et partenaires, mais aussi à nos compétiteurs de la région.
La présentation dynamique marquant la fin de cet exercice Brunet Takomori 2025 s'est déroulée en présence des consuls généraux du Japon, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Indonésie. L'an prochain, cet exercice franco-japonais se déroulera au pays du soleil levant.
Et j'ajoute que demain matin à 7h30, c'est le général Gabriel Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invité du matin. Il s'agira de sa première interview dans les médias calédoniens depuis sa prise de fonction le 1er août dernier. David Guyenne était sur notre antenne ce matin. Il était notre invité de 7h30. Le président de la CCI s'exprimait pour la première fois depuis sa garde à vue fin juillet, Jean-François Baudin.
Il était en effet resté silencieux après avoir été mis en cause dans le cadre d'une affaire d'abus de biens sociaux, de blanchiment d'abus de biens sociaux ainsi que complicité et recel, sans lien avec son mandat à la Chambre de commerce. David Guyenne était ressorti libre après 48 heures de garde à vue, mais l'enquête se poursuit et ce matin, il est revenu sur cette affaire.
J'ai été entendu dans le cadre d'une affaire que vous mentionnez, des affaires personnelles hein, qui ne touchent pas à la gestion de la CCI. Et évidemment, je ne vais pas vous cacher qu'une garde à vue, c'est quelque chose d'une épreuve personnelle que je souhaite à personne, mais qui m'a permis de m'expliquer sur le fond de cette affaire. Cette affaire, elle concerne un contrôle fiscal effectué il y a quelques années et qui s'est complexifié dans un contexte post-émeute et Covid. Concrètement, il s'agit d'un différend entre l'administration fiscale et moi-même sur la valorisation de ma société, le centre commercial du Pont des Français, qui depuis a été complètement brûlé. Je tiens à dire que, avec beaucoup de force et de clarté, que je respecte profondément la justice de ce pays, je respecte profondément l'état de droit, que je continuerai à répondre aux demandes de la justice.
Pour l'instant, il ne s'est rien passé depuis votre
garde
à vue.
Non, et je souligne même que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, il n'y a pas de fraude fiscale, il n'y a pas d'opération opaque. Au contraire, tout s'est fait au vu et au su de tout le monde, notamment de l'administration fiscale.
Dans ce contexte judiciaire, la question s'est posée de son maintien à la présidence de la CCI. Et hier, une assemblée générale extraordinaire a été organisée à la demande d'un tiers des membres de la Chambre. Elle a renouvelé sa confiance à David Guyenne par 65% de ses membres, c'est-à-dire 20 élus sur 33. Au lendemain de ce vote, David Guyenne comprend que l'on ait pu se poser la question de sa légitimité et qu'il y ait eu des interrogations.
Évidemment que la légitimité de continuer ma fonction en tant que président de la CCI, c'est la première question que je me suis posée vis-à-vis des élus, vis-à-vis des électeurs qui nous ont portés et vis-à-vis du personnel de la CCI et des Calédoniens. C'est pourquoi j'ai rencontré moi très rapidement les membres du bureau, j'ai pu expliquer à tous les membres consulaires la situation et qu'on a pu ensemble déterminer de la meilleure manière de continuer les actions de la Chambre, de porter la Chambre. Et cette légitimité, elle a été confirmée par ce vote, parce que le meilleur moyen de préserver l'institution, le meilleur moyen de rendre service aujourd'hui aux entreprises calédoniennes et aux Calédoniens, c'est de continuer à les accompagner dans cette période de reconstruction et d'unir toutes nos forces et d'unir toutes les bonnes volontés.
La liste d'opposition Alliance pour la Relance regrette la décision de David Guyenne de se maintenir à la présidence. Elle estime que cela fragilise encore davantage la crédibilité et l'image de la CCI et ses membres s'interrogent sur la possibilité de continuer à exercer leur mandat. Le président de la CCI revient sur la question de l'exemplarité qui a été posée.
J'ai envie de dire que l'exemplarité, c'est aussi quand on a eu son entreprise brûlée, quand on est confronté à des épreuves, qu'on continue à se battre à la fois pour soi, mais qu'on continue aussi à se battre pour les entreprises calédoniennes, pour les jeunes et pour l'intérêt général. L'exemplarité, c'est aussi de ne pas céder au désespoir, ne pas céder à la haine, mais de trouver des solutions pour les entreprises partout en Calédonie. Et l'exemplarité, c'est aussi de mettre ses énergies au service de causes communes, de ne pas se disperser dans des querelles intestines. Et c'est là le fond du sujet. Je pense que ces élus, je ne souhaite pas qui démissionnent. Ils contribuent aujourd'hui au travail de la Chambre dans des commissions. Ils ont été élus, ils sont redevables aussi des électeurs. Et nous avons besoin de toutes les forces unies pour redresser la Calédonie.
Après ce vote de confiance de la majorité de la Chambre, David Nguyen va reprendre ses activités. Et il est aussi revenu ce matin sur les gros dossiers auxquels s'attache la CCI. Une interview que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Jean-François Baudin. Il est 18h, passé de 5 minutes. Seconde pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et actualité religieuse en Calédonie avec un anniversaire. La congrégation des Petites Filles de Marie fêtera à partir de demain et pendant tout le week-end son jubilé. L'église de la Conception vivra au rythme des 150 ans de la congrégation fondée le 12 septembre 1875 par Sœur Marie de la Croix. Les précisions de Mère Christine, supérieure de la congrégation des Petites Filles de Marie.
En fait, les 150 ans de notre fondation. Tu vois, elle a été fondée en 1875. Dans l'église Gélé-Marie, c'est notre date anniversaire pour toutes les congrégations qui portent le nom de Marie. C'est une fête déjà de la foi, une fête d'action de grâce pour tout ce qui a été fait depuis la fondation, parce que notre fondatrice, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs pour évangéliser à sa manière chez le peuple calédonien déjà, les enfants du pays, mais aussi les femmes du pays. Et pour nous, c'est une grande grâce de fêter ça. Elle est venue de France, c'est une vendéenne. Et quand elle a fait profession religieuse, elle a pris le nom Sœur Marie de la Croix. Alors, ce qu'on peut retenir d'elle aujourd'hui, c'est cette foi immense qu'elle a eue. Elle était éducatrice, elle est formatrice, elle est accompagnatrice. Mais elle permettait à ces jeunes qui ne connaissaient rien, à grandir, pour devenir des femmes responsables. Exemple, la reine Hortense, mais la reine Hortense fait partie de tous ces enfants qui ont grandi dans la cour de Sœur Marie de la Croix.
Au programme de cet anniversaire, une exposition sur la congrégation, des échanges et partages, puis une messe sera célébrée à 18h par Mgr Sioné Poé. Actualité festive, et c'est un événement attendu. Je parle du grand retour ce samedi soir à Sainte-Marie du 36e carnaval de Nouméa. Ils seront 13 groupes de carnavaliers, soit 700 personnes dans le défilé pour cette 36e édition. Le départ sera donné à 18h depuis le rond-point de l'Ovivaengea jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie. La fête se poursuivra avec de nombreuses animations, des stands de restauration et même un DJ pour assurer l'ambiance musicale. Les précisions d'Aurélie Duro, chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa.
On n'a pas mis de thème cette année parce que c'est vrai que les carnavaliers toujours débordent d'imagination et puis ça permet d'avoir différents thèmes et c'est vraiment au choix des associations ou des troupes qui se présentent. On a quelques nouvelles troupes cette année, c'est vrai qu'on a nos habitués. Cette année on a une troupe Shine Future Colada qui est une nouvelle troupe. On a Ruiz Tahiti Nui qui a déjà peut-être participé mais on ne les avait pas vus depuis un moment. Et sinon on a évidemment les troupes qu'on a l'habitude de voir avec la bande à Momo, Afro Caraïbes. On a Pinky Paul aussi, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous. On a la PEHMC aussi, et puis on a la CAPA, et on a aussi la CAF. Et on a bien sûr notre fanfare Malawi aussi.
L'objectif de cette édition 2025 ?
S'amuser, passer un bon moment ensemble, de la joie, de la bonne humeur, passer un moment en famille. Comme je dis, on a beaucoup d'animations qui sont prévues. On a des spectacles aussi prévus au parc urbain. Donc c'est vraiment passer un moment convivial tous ensemble, s'amuser et faire la fête au carnaval.
Un événement qui se prépare depuis plus de 6 mois pour offrir au public un show plein de paillettes et d'énergie. Comme chaque année, la bande à Momo sera dans le défilé. Ils seront une centaine de danseurs et musiciens à vous en mettre plein les yeux. Jean-Michel Lavigne, président d'honneur de la bande à Momo.
La référence chez nous, c'est le Brésil. Hein.
Donc en fait, c'est une grosse batucada avec une école de samba. Chaque adhérente et adhérent s'inspire donc des couleurs décidées pour l'année. Et puis après, chacun fait son costume à la maison ou s'entraide lors des ateliers le dimanche ou samedi après-midi. C'est vrai que un des clous pour nous, carnavaliers, c'est de voir tous ces costumes et cette beauté, cette brillance qui émerge de la bande à Momo quand on se groupe à quelques instants de défilé. Toute la bande à Momo va danser sur le son de la batucada et commandée par Florentin, qui est notre chef de batouk.
Et parmi les carnavaliers, les membres du Sifi Club, ils vous feront rêver en vous emmenant dans le monde imaginaire des fées et du Moyen-Âge sur de la musique à prédominance celtique. Aurélie Raffard, membre du Sifi Club.
Bah là, ça sera un petit peu un melting pot de tous ces univers un peu fantastiques et de l'imaginaire. Donc, il y aura des personnages costumés en médiéval, des musiciens avec des cornemuses, il y aura des fées et des lutins qui vont déambuler, distribuer des bulles et des pierres de fées pour les enfants et les plus grands. Et d'autres personnages de l'univers steampunk et un des clous, ou en tout cas une des belles surprises, sera aussi la présence d'une cavalière, Savannah, et son cheval Yellow qui vont ouvrir finalement notre groupe du Sifi Club. Pour les costumes, on a dû s'organiser un petit peu chacun, on est un petit peu habitué hein, évidemment avec toutes nos participations aux différentes activités proposées par le Sifi, mais chacun en gros a confectionné son costume selon l'univers, le domaine qu'il a choisi pour représenter voilà, le Sifi Club. Alors nous, bah pour les fées par exemple, on a dû customiser ou agrémenter nos robes ou nos jupes de lumière, de fleurs et autres objets un peu fantastiques et magiques pour offrir un beau spectacle au public.
Le cortège du 36e carnaval de Nouméa, avec en tête le maire Sonia Lagarde et son conseil municipal, partiront samedi soir à 18h du rond-point de l'Eau-Vive à Enghea jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie. Et enfin, en bref, information festive, mais du côté des îles, l'IFOU vivra à partir de demain au rythme de l'édition 2025 de la Foire des îles Loyautés. Marée, l'IFOU, Ouvéa et Tiga se retrouveront pour présenter le meilleur de leur production agricole, leurs produits de la mer, artisanaux, horticoles et bien d'autres choses qui font les richesses de la province des îles. Ce sera jusqu'au dimanche 14 septembre. 18h12, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, en première partie de nuit, des averses se déclencheront par endroits sur la façade ouest et quelques gouttes seront possibles sur le sud-est. Au fil des heures, le ciel se dégagera et deviendra clair, un peu nuageux. Le vent restera le plus souvent variable et faible. Sur la pointe sud de la Grande Terre et l'île des Pins, il soufflera de secteur nord-ouest autour de 10 nœuds. Les températures, elles, oscilleront entre 16 et 19 degrés, localement 20 à 21 degrés sur la pointe nord. Demain matin, quelques nuages et gouttes de pluie circuleront encore sur les Loyautés et au début de matinée sur le sud-est, mais l'ensemble restera agréable. Sur le nord-ouest, la côte est et les Loyautés, le vent restera faible et variable autour de 5 nœuds. Sur le sud-ouest et l'île des Pins, il s'établira d'ouest-nord-ouest en cours de matinée proche de 10 nœuds.